Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et pivot. Au programme, je ne suis pas là. Et demandez l'asile au chemin Roxham. Bonne écoute.
Je ne suis pas là. Un texte de Michel Biron, paru dans la revue L'Inconvénient à l'été 2022. Parmi les mutations de la littérature québécoise contemporaine, il en est une qui s'est imposée de façon relativement discrète, dissimulée derrière des étiquettes plus flamboyantes comme l'américanité, la nordicité ou tout simplement la passion de l'ailleurs. Ce sont des extensions géographiques de l'imaginaire romanesque qui ne s'apparentent ni à la thématique de l'exil, ni à l'exotisme proprement dit. L'action et les personnages se situent certes hors du pays, mais comme tout est connecté à l'ère de la mondialisation, il n'y a plus vraiment d'opposition entre ici et ailleurs. L'éloignement est d'un autre ordre, car l'exploration de territoires réels ou fantasmés trouve son sens dans une trajectoire singulière, une subjectivité élargie, décentrée et qui se projette hors de soi, dans un autre soi-même décentré, à la manière de Baudelaire. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. La réussite de tel roman repose sur la force d'attraction de personnages à la fois lointain et proche, incarnant une façon clandestine d'habiter le monde dans laquelle l'écrivain se reconnaît. Dominique Fortier nous a habitués, depuis « Du bon usage des étoiles » 2008, à promener une sorte de miroir stendhalien le long des chemins reculés d'un autre siècle afin de mieux observer la réalité d'aujourd'hui. La géographie, chez elle, est toujours une leçon d'histoire et de vie, une plongée dans un réel ancien et pourtant intimiste. Elle nous a fait redécouvrir le Grand Nord de Sir John Franklin, l'éruption du Vésuve, le Mont-Saint-Michel, le calendrier inventé par la Révolution française, avec un attachement particulier pour des figures féminines comme celle d'Emily Dickinson, dont elle a esquissé un magnifique portrait dans « Les villes de papier » 2018. D'un livre à l'autre, l'écriture de Dominique Fortier ne cesse de s'alléger, de s'affiner et de s'affirmer en même temps, trouvant son équilibre dans un jeu d'aller-retour entre le descriptif et le poétique, entre l'étrangeté d'un monde prémoderne et le récit de soi. Longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir vécu au 19e siècle, qui me semblait le théâtre d'une existence dépourvue des mille et une obligations superflues encombrant nos vies modernes surexcitées, lit-on dans les ombres blanches. Dominique Fortier n'est pas une nostalgique, mais rien ne lui parle autant que les paysages désertés qui la ramènent à l'élémentaire, comme ce terrain des cantons de l'Est, qu'elle admire parce que tout y est à l'abandon, parce que la forêt y reprend ses droits. D'ici, on est en 1890. Le passé qu'elle convoque si souvent dans ses romans n'a rien d'un monde qui disparaît. Il renaît plus fort que jamais. Il a quelque chose de merveilleusement envahissant. Les ombres blanches poursuivent la même veine historico-poétique que les villes de papier, en s'attachant cette fois aux trois femmes grâce à qui les poèmes d'Emily Dickinson nous sont parvenus, sa sœur Lavinia, sa belle-sœur Suzanne et sa grande amie Mabel, la maîtresse du mari de Suzanne, à qui s'ajoute la fille de Mabel, Millicent. Les spécialistes de la poésie américaine n'apprendront rien de neuf à leur propos puisque Dominique Fortier ne fait que reprendre les éléments biographiques déjà connus, mais il ne s'agit justement ni de biographie, ni de roman historique, ni même de roman à proprement parler, tant la part de la fiction y est minimale. On dirait plutôt une rêverie ancrée dans le quotidien de femmes qui accompagnent la poète au-delà de la mort. Telles des fées bienveillantes qui sortent ces poèmes du tiroir sans autre ambition que de servir de relais, de leur prêter vie. Lavinia est à Émilie ce que Max Brod sera à Kafka. Elle fait partie de ces rares ouvriers du hasard à qui l'on doit des œuvres monumentales qu'ils n'ont pas écrites. Après le portrait d'une écrivaine presque invisible, Dominique Fortier propose ainsi le portrait de femmes plus invisibles encore, figures littéralement secondaires au sens où elles arrivent après la figure centrale. Leur rôle est infiniment modeste et pourtant, sans ces ombres blanches, il n'y aurait pas de personnage principal, il n'y aurait pas d'Emily Dickinson. La loi chronologique ne suit pas ici la loi de la causalité. Ce qui vient après n'est pas la conséquence de ce qui vient avant. Au contraire, cela engendre ceci. Ces trois figures secondaires inventent ce qui les précède en quelque sorte. C'est à se demander, ajoute Dominique Fortier, qui sait de quoi elle parle à titre de traductrice, si tout livre n'est pas accompagné de telles ombres et si, au fond, ces relais ne devraient pas aussi signer les œuvres qu'ils révèlent. Si même, ils n'en sont pas, jusqu'à un certain point, les co-créateurs. Et si c'étaient les fantômes qui écrivaient? Quand aujourd'hui je dis « je », qu'est-ce qui parle? Je vous rappelle que vous écoutez « Je ne suis pas là », un texte de Michel Biron, paru dans L'Inconvénient à l'été 2022. Les ombres blanches donne au pronom « je » la valeur d'une perpétuelle interrogation. Parmi les questions obsédantes, l'une revient plus que d'autres. Pourquoi certains êtres ont-ils besoin de vivre plusieurs vies en même temps dans plusieurs lieux inventés? Est-ce parce qu'ils n'ont pas le talent nécessaire pour en vivre une seule correctement? Ce sera tout particulièrement le drame de Mabel, jeune musicienne comblée de talent et de beauté, mais qui ne peut pas se résoudre à avoir une seule vie. Quand son amant, Austin Dickinson, lui propose de faire un livre à partir des poèmes et parts de sa sœur, l'occasion est parfaite d'enfin vivre autrement à travers la voix d'autrui qu'elle fera sienne, ou du moins qu'elle accompagnera pleinement. Ce ne sera pas son livre, mais tant mieux, car elle préfère à la voix de l'auteur celle de l'éditrice, parce que plus puissante, plus détachée, plus libre. À côté de Mabel, de sa fille Millicent et de Lavinia, la triste Suzanne, trompée par son mari Austin et endeuillée à jamais par la mort de son fils, fait presque pitié. Mais c'est la plus forte du groupe, du fait même de son prodigieux pouvoir d'effacement. Quand Lavinia tente de l'amadouer en lui offrant le thé, elle refuse presque violemment. Qu'on lui offre seulement une tasse d'opium, une tasse de cigu, une tasse de cocaïne. Suzanne voudra interdire que le nom de sa rivale Mabel figure sur la couverture du livre qui sortira le 12 novembre 1890, 14 ans après la mort de la poète. Elle n'y pourra rien finalement, mais elle a l'habitude des échecs et se console en relisant les lettres qu'Émilie lui envoyait, comme pour la préparer à ne pas trop se fier aux gesticulations des vivants et à leurs vaines paroles. Même les plus belles, les plus tendres et les plus émouvantes ne cessent de chuchoter « Je ne suis pas là ». Telle est la leçon des ombres blanches. Écrire à autrui pour lui dire « Je ne suis pas là », tout en donnant à ce jeu une autre vie parmi les choses qui ne meurent pas. Mais plus encore, Les ombres blanches est un remarquable exercice de lecture. Dominique Fortier insère ici et là, au fil des portraits et des descriptions, des commentaires lumineux sur l'œuvre d'Emily Dickinson, sur ses innombrables tirets, par exemple, que l'éditeur initial jugera illisibles, et dans lesquels Lavinia entend pourtant respirer sa sœur morte. Ou encore sur le mot « délusive », biffé par la poète, remplacé par des synonymes de plus en plus éloignés. C'est dans ces passages que la rencontre entre soi et l'autre a lieu de la façon la plus naturelle. Suivant un principe que la romancière formule ainsi. Émilie n'a jamais écrit autre chose que des moitiés de poèmes. L'autre demi appartient à qui la lit. C'est la voix qui se lève en chacun pour lui répondre. Et il faut ces deux voix, la vivante et la morte, pour faire le poème entier. Il n'est pas facile, toutefois, de se projeter dans autrui sans se perdre soi-même. Le plus récent roman de Perrine Leblanc en est la démonstration. Après s'être aventurée en Sibérie dans « L'homme blanc » 2010, à travers la figure énigmatique d'un clown, la romancière se plonge dans un monde à la fois plus connu et plus impénétrable, au cœur de l'Irlande du Nord en guerre. Elle n'y rencontre aucun clown, mais plutôt des combattants de l'ombre et des espions inquiétants qui changent sans cesse de nom. Au début, on croit lire un roman de type historique, même s'il se déroule dans un passé récent. La scène d'ouverture est d'un réalisme saisissant. Perrine Leblanc décrit l'enlèvement et l'exécution de Samuel Gallagher, écrivain irlandais devenu héros de l'IRA. Le lecteur est invité à consulter le lexique fourni en fin du volume pour se faire expliquer les acronymes et les références politiques qui émaillent le récit. Mais très vite, on comprend que le roman raconte moins les dessous des troubles en Irlande du Nord que l'histoire d'Anne Kelly, une jeune Québécoise rousse d'ascendance partiellement irlandaise qui accepte de collaborer avec un autre Québécois, Paul Higgins, lequel veut réaliser un film documentaire sur la mort de Samuel Gallagher, dont le corps n'a jamais été retrouvé, mais qui n'en a pas moins reçu les honneurs des siens à titre de martyr de la cause irlandaise. C'est donc un documentaire sur un fantôme qui constitue la trame de fond du roman. Que viennent faire les deux Québécois dans cette histoire de fausse exécution? C'est ce que les Irlandais se demandent, surtout quand Anne est envoyée par Paul faire du repérage à Belfast. Elle passe par Paris, où elle rencontre un grand reporter, François Lebar, qui couvre depuis longtemps l'actualité en Irlande du Nord. Il connaît les méthodes de l'IRA et informe rapidement Anne Kelly qu'elle est suivie, comme lui-même d'ailleurs. Ce qui s'annonçait comme une enquête de terrain se double d'une histoire d'amour entre Anne et François, sur fond d'espionnage plus ou moins subtil. L'eau de la douche dans la chambre d'hôtel d'Anne a la couleur du café. Quelqu'un s'amuse à lui faire peur pour la dissuader de mettre son nez dans la fin mystérieuse de Samuel Gallagher, mort pour de faux. Grâce au journaliste français, elle réussira tout de même à se rendre dans un cottage de Belfast servant de cache d'armes, mais l'entretien avec les gens du Nord tourne court tant ses motivations paraissent suspectes. « Vous venez chercher chez nous une émotion que la paix dans votre pays ne vous procure pas. Ça ne m'impressionne pas. Je me fous que votre troisième grand-père soit né en Irlande. » Je vous rappelle que vous écoutez « Je ne suis pas là », un texte de Michel Biron paru dans L'Inconvénient à l'été 2022. À peine commencé, le projet de documentaire avorte brusquement. Même avec la meilleure recommandation du monde, c'était un échec. Elle était trop petite pour jouer au grand reporter. Après avoir échappé de peu à un attentat de l'IRA, Anne en a assez et retourne bredouille à Montréal, ne rapportant de son aventure irlandaise qu'un souvenir de l'explosion, un éclat de fenêtre enfoncé dans sa semelle de caoutchouc. Il creusera dans le parquet frais ciré de l'appartement un sillon que des années de frottement ne combleront pas. Reste tout de même le journaliste breton François Lebar, dont la diction parfaite et l'accent des classes françaises du dessus séduisent Anne. À travers lui, elle entend la voix d'un pays proche, mais qui n'est pas le sien. François et Anne parlaient la même langue, mais pas le même langage. Ils étaient sortis du même ventre, mais ils n'avaient pas eu la même nourrice. Un désagréable sentiment d'infériorité refait surface, tel un vieux cliché. Elle se sentait petite, sans récit, et elle avait souvent le sentiment, avec ce français qu'on lui demandait parfois de traduire quand elle était à Paris, d'être une étrangère dans sa langue. Elle invitera plus tard François Lebar à la rejoindre à Montréal, là où Samuel Gallagher a refait sa vie sous le nom de Samuel O'Brien, grâce à une entente secrète entre les Britanniques et l'IRA, comme si l'on pouvait toujours recommencer sa vie en Amérique. Jean Dunord présente ainsi une petite galerie de personnages qui changent de nom, de langue et d'identité au gré des circonstances historiques et auxquelles il est difficile de s'attacher tant ce roman en apparence immersif garde une certaine froideur distante. C'est un roman étrange, qui semble toujours hésiter entre l'enquête de terrain et la fable sentimentale, entre une langue personnelle presque populaire, on l'a guidé par poussée salope, et un certain maniérisme, l'usage du mot stridence pour parler de la sonnerie du téléphone. La syntaxe elle-même est parfois capricieuse, obligeant le lecteur à relire des phrases légèrement étirées. Ce peut être parce que le complément d'objet est éloigné du verbe. Elle essayait de ressusciter avec des vitamines en poudre diluées dans de l'eau tiède une plante verte négligée par son propriétaire. Ou parce que l'écrivaine multiplie les compléments d'objets directs pour mieux décaler l'élément attendu d'une comparaison, comme dans l'exemple suivant, qui décrit le retour soudain de François dans l'appartement d'Anne au terme d'une journée bizarre, départ inexpliqué de François avant qu'elle se réveille, eau de la douche qui a la couleur du café, présence dans la rue d'un inconnu aux cheveux roux qui la fixe de façon provocante. En 30 minutes, il a changé sa disparition au petit matin, l'eau chaude douteuse et le grand roux en souvenir cotonneux. Mais la véritable hésitation concerne le projet lui-même de jouer au grand reporter, de se projeter vers un or hors de portée, de se confronter à une violence qui la sort d'elle-même. Perrine Leblanc l'avait déjà fait avec succès dans « L'homme blanc », mais autour d'une figure unique. Dans « Jean Dunord », le tableau est moins centré, et Anne Kelly demeure fuyante, remuant ciel et terre pour retrouver le fil d'une histoire qui n'est pas la sienne. C'était « Je ne suis pas là », un texte de Michel Biron, paru dans « L'inconvénient » à l'été 2022.
Demander l'asile au chemin Roxham, un texte d'Emma Guerrero-Dufour, paru dans le magazine Pivot du 16 août 2022. Sama, réfugiée palestinienne de Syrie, raconte son passage à la frontière canado-américaine pour demander l'asile au Canada. Elle décrit la longue attente ainsi que le traitement différencié qu'elle a constaté de la part des autorités frontalières. Après avoir traversé, tu dois donner toutes tes affaires, puis on te demande quelques informations de base et pourquoi tu traverses la frontière illégalement, explique la jeune femme aux cheveux courts, d'un ton clair et posé, malgré une certaine nervosité qu'on peut détecter dans sa voix. Notez que Sama est un nom d'emprunt utilisé pour protéger son identité. Rencontrée au parc Jeanne-Mance à Montréal, Sama soutient avoir passé au total 3 jours dans les installations de l'Agence des services frontaliers du Canada au début de juillet. En demandant l'asile, la bachelière de 27 ans aurait fait face à de premières difficultés. Et c'est à cause de son statut. En tant que réfugiée palestinienne de Syrie, Elle ne possède qu'un document de voyage, mais pas de passeport formel, ni de Syrie, ni de l'autorité palestinienne. Les autorités canadiennes ne savaient donc pas auprès de qui rapporter son arrivée au pays. Ils n'étaient pas certains de la catégorie dans laquelle je tombais, raconte Sama, qui a grandi dans le camp de Yarmouk, au sud de Damas, la capitale syrienne. Créée par l'ONU dans les années 1950 pour accueillir les Palestiniens, Palestiniennes, fuyant la guerre israélo-arabe, le camp, devenu depuis un véritable quartier, a été tour à tour assiégé par les forces armées syriennes, saisi par le groupe armé État islamique, puis bombardé par le régime de Bachar al-Assad. Après cette première entrevue, 2 heures d'attente, puis un transfert dans une roulotte des services frontaliers. Là, de nombreuses chaises alignées et un groupe d'environ 5 personnes de nationalités différentes, dont 2 jeunes enfants. Sama estime avoir attendu 6 heures, sans aucune information sur ce qui les attendait. J'avais des collations dans mon sac, mais on m'a interdit de les prendre, affirme Sama. Aucune nourriture n'aurait été donnée ce jour-là. Dans la salle d'attente, seul un bidon d'eau était mis à disposition. Ce qui m'a choqué, c'est comment ils ont traité les enfants. Qu'il ne leur ait pas donné droit à leur collation pendant 8 heures, relate-t-elle. Sama raconte aussi que les agents réveillaient chaque personne qui tentait de s'endormir. Il y avait un couple de Turcs et leur enfant qui dormaient avec une jambe qui dépassait sur la bordure d'une autre chaise. Ils se sont fait avertir de n'utiliser qu'une seule chaise. Mais personne d'autre n'attendait et plusieurs chaises étaient vides. C'était humiliant. Ce n'est que tard le soir que le groupe aurait été transféré vers une autre roulotte où des lits superposés les attendaient, arrivant ainsi trop tard pour la distribution du souper. Le lendemain, un déjeuner leur aurait été fourni, mais toujours pas d'informations sur la suite du processus. Sama raconte avoir attendu 1 journée entière, sans savoir pourquoi et toujours sans accès à ses effets personnels. Il y avait une femme avec nous qui a eu ses règles et elle avait besoin de se changer, mais on l'a empêchée d'aller chercher ses produits menstruels qui se trouvaient dans son sac, déplore Sama, pour qui il s'agit d'une question de dignité humaine. Lorsqu'elle a demandé l'accès à son téléphone pour avertir sa sœur qu'elle était arrivée, on lui aurait refusé. Même quand tu es un criminel et que tu te fais arrêter, tu as le droit à un appel, s'indigne-t-elle. La jeune femme, qui fait régulièrement des migraines, dit aussi avoir été privée de ses médicaments antidouleurs. Par contre, si vous fumiez et que vous aviez besoin de vos cigarettes, c'était permis. Et ce n'était pratiquement que des hommes qui fumaient, dénonce Sama. Les fumeurs auraient ainsi eu accès à leurs sacs et téléphones. Le lendemain matin, elle aurait été appelée par les agents d'immigration avant le déjeuner, manquant son premier repas de la journée. Elle aurait alors appris que sa demande d'asile était rejetée pour en avoir déjà fait une aux États-Unis, où elle habitait depuis 7 ans. C'est l'un des effets de l'entente sur les tiers pays sûrs entre le Canada et les États-Unis. Cependant, Sama se serait fait dire qu'elle n'était pas menacée de déportation et qu'elle pouvait s'en aller. Le groupe aurait cependant été emmené dans un hôtel, l'un de ceux réquisitionnés par le gouvernement fédéral pour héberger les demandeurs-demandeuses d'asile. À ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. J'ai pensé qu'ils allaient me mettre en quarantaine, relate Sama, qui avait pourtant fourni des preuves vaccinales jugées valides et donné l'adresse de sa sœur comme lieu d'isolement potentiel en cas de COVID-19. Les agents lui auraient ordonné d'y passer la nuit, mais Sama dit avoir protesté en s'asseyant sur le sol. « Arrêtez-moi, ou bien laissez-moi partir. » J'ai paniqué parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas vu ma famille et je savais qu'ils étaient à Montréal pour 1 mois. J'avais peur de devoir rester isolée pendant 2 semaines et de ne pas pouvoir les voir, soupire-t-elle. À ces questions, les agents auraient systématiquement refusé de répondre. Si au moins on m'avait informé sur la prochaine étape, je n'aurais pas pu me plaindre, mais je ne comprenais pas pourquoi on devait rester à l'hôtel. Est-ce que c'était pour faire une quarantaine? Allions-nous être envoyés dans une autre province? Ce n'est qu'après avoir insisté et après de nombreux va-et-vient des agents frontaliers qu'on l'aurait finalement laissé appeler sa sœur pour qu'elle lui commande un taxi. Sama dit n'avoir pu quitter l'hôtel qu'à 22 heures, près de 3 jours après son arrivée au pays. Maintenant qu'elle est réunie avec sa sœur, Sama prend le temps d'atterrir au Québec. Elle espère pouvoir demander un permis de travail et s'inscrire au cours de français pour nouveaux arrivants. Mais pour l'instant, elle en profite pour visiter les rues de Montréal et rattraper le temps perdu. Vous venez d'entendre « Demander l'asile au chemin Roxham », un texte d'Emma Guerrero-Dufour, paru dans le magazine Pivot du 16 août 2022.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Claire Dorion à la lecture, Pierre Duclos à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.